La vallée de Takandar était devenue un lieu où régnait la fumée, le désordre et la mort. Rouark y pistait ses proies avec Trask et Balder à ses côtés. Des frères de son ordre, les boucliers rouges. Avant de venir ici, il ne les avait jamais vus, mais c'étaient néanmoins des frères. D'ailleurs, leur lien avait été scellé par le sang des traîtres et de l'engeance du démon. La foudre s'abattait un peu partout. Sous ses pieds, Rouark entendait craquer du sable transformé en minuscules éclats de verre par les éclairs. Avisant une cachette, des cadavres de trollocs empilés, il s'accroupit derrière, et ses compagnons l'imitèrent. La tempête s'était enfin levée, des vents furieux menaçant d'arracher son voile à Rouark. Même si la brume s'était dissipée, sous un ciel si sombre et avec les colonnes de poussière et de fumée, il était difficile de distinguer quoi que ce soit. Du coup, on se battait par groupes éparpillés. À proprement parler, il n'y avait plus de front. Plus tôt dans la journée, une attaque de Myrdraal, suivie par une charge de trollocs, avait finalement submergé les défenseurs qui tenaient jusque-là l'entrée de la vallée. Les Théariens et les fidèles du dragon s'étaient repliés en direction du mont Cheyolghoul. Désormais, la plupart se battaient au pied de la montagne. Par bonheur, les trollocs qui avaient réussi à passer n'étaient pas si nombreux que ça. Le massacre dans le défilé, puis le long siège, avait considérablement éclairci leur rang. En l'état actuel des choses, ils devaient être à peu près autant que les défenseurs. Ça restait un sacré morceau à avaler. Mais selon Rouark, la plus grande menace serait les sans-honneurs affublés de leur voile rouge. Comme les vrais aïels, ils s'étaient répandus dans toute la vallée. Du coup, sur un terrain de chasse qu'on ne voyait pas plus loin que 3 pas, Rouark et ses compagnons les traquaient. De temps en temps, ils devaient se débarrasser d'une bande de trollocs, mais c'était rare, car les blafards les poussaient à affronter les forces régulières de Théar et de l'Arad-Doman. Rouark fit signe à ses frères, et tous trois bravèrent la tempête pour longer un des flancs de la vallée. Si la lumière le voulait bien, les défenseurs réussiraient à protéger le chemin qui menait à la brèche, où le Karakarn affrontait l'aveugleur. Randaltor allait devoir gagner très vite. Selon Rouark, les ténèbres ne tarderaient pas à conquérir la vallée. Rouark et ses frères aperçurent un groupe d'aïels qui dansait avec les lances contre les félons aux voiles rouges. Bien que nombre de ces traîtres soient capables de canaliser, dans cette bande-là, pas un ne semblait savoir manier le pouvoir. Avec ses deux frères, Rouark vint se mêler à la danse. Les voiles rouges se battaient bien. Pendant ce combat, Trask se réveilla du rêve, mais non sans étriper un ennemi avant de s'écrouler. L'escarmouche se termina par la fuite des voiles rouges survivants. Rouark en tua un avec son arc, et Baelder l'imita. Contre de vrais aïels, il n'aurait pas tiré dans le dos. Mais ces monstres-là étaient pires que les créatures de ténèbres. Les trois aïels survivants du groupe qu'ils avaient aidés les remercièrent sobrement. Puis ils se joignirent à eux et tous repartirent vers le mont Cheyolghoul, pour voir où en étaient les défenses. Par chance, les combattants tenaient bon. Beaucoup étaient des fidèles du dragon, pour l'essentiel des hommes et des femmes du peuple qui avaient rejoint la bataille récemment. Cela dit, il y avait dans le lot quelques Aes Sedai, une poignée d'aïels et 2 ou 3 achamans. Parmi ces braves, la plupart brandissaient des épées rouillées ou des bâtons qui devaient être en réalité des manches de pioche ou de pelle. Contre les trollocs, ils se battaient comme des loups acculés. Impressionné, Rouark secoua la tête. Si les tueurs d'arbres avaient lutté si sauvagement, Laman aurait peut-être toujours été perché sur son trône. Un éclair jaillit du ciel et tua quelques dizaines de défenseurs. Ébloui, Rouark cligna des yeux, puis tourna la tête sur un côté et sonda le terrain battu par les vents. Là! Faisant signe à ses compagnons de rester en arrière, Rouark s'accroupit et avança en silence. Ramassant une poignée de l'étrange poussière grise, il en étala sur ses vêtements et sur son visage. Sauvage, le vent lui en arracha une partie, qui s'envola avec la fumée. Un couteau serré entre les dents, Rouark commença à ramper. Du haut d'une butte, sa proie observait la bataille. Voile baissée, ce sans-honneur souriait de toutes ses dents, qui n'étaient pas taillées en pointe. En principe, ça signifiait qu'il ne pouvait pas canaliser, mais il ne fallait pas s'y fier, car il y avait des exceptions à la règle. Rouark ignorait ce que ça pouvait bien vouloir dire. Eh bien, ce traître-là maniait le pouvoir. Ça devint évident quand il tissa une lance de flamme et la propulsa sur un groupe de Théariens non loin de là. Rouark avança lentement dans une petite ravine qui le dissimulerait. Il n'accéléra pas le rythme, même si ça le contraignit à voir le sans-honneur tuer des défenseurs de la pierre et des fidèles du dragon. Continuant son approche prudente, il tendit l'oreille pour capter le crépitement des flammes. Bien campé sur ses jambes, les mains dans le dos, le voile rouge continuait à canaliser le pouvoir. Le sans-honneur n'avait pas vu Rouark. Même si certains de ses chiens se battaient comme des aïels, ce n'était pas le cas de tous. En général, ils n'étaient pas aussi silencieux, et ne connaissaient pas si bien que ça l'art de tirer à l'arc et de danser avec les lances. Les traîtres comme celui qu'ils visaient n'avaient sûrement jamais eu besoin d'approcher d'une proie sans un bruit, que ce soit un adversaire à poignarder au cœur ou un cerf à égorger. Quand on disposait du pouvoir, pourquoi se fatiguer autant? Lorsque Rouark contourna le cadavre d'un Trolloc à ses pieds, le voile rouge ne s'aperçut de rien. Tendant un bras, l'aïel au voile noir trancha le jarret de sa cible, qui s'écroula avec un cri de surprise. Avant que le sans-honneur riposte avec un tissage, Rouark lui ouvrit la gorge. Puis il retourna se cacher entre deux charognes de monstres. Deux Trollocs accoururent, intrigués par le cri. Rouark les abattit avant qu'ils aient le temps de comprendre ce qui se passait. Puis, de nouveau, il se fondit dans le sinistre décor. Aucune créature des ténèbres ne se montrant, Rouark alla rejoindre ses compagnons. En chemin, il passa devant une petite meute de loups qui achevait deux Trollocs. Le museau rouge de sang, les animaux se tournèrent vers l'aïel, les oreilles dressées. Mais ils le laissèrent passer, s'éloignant en silence pour chercher d'autres proies. Les loups. Arrivés avant la tempête, ils luttaient à présent aux côtés des hommes. Sur la bataille en cours, Rouark n'avait presque aucune vision globale. Cela dit, dans le lointain, il voyait qu'une partie des troupes de Darlin Cisnera tenait encore leur position. Et leur formation. Les arbalétriers étant déployés à côté des fidèles du dragon. La dernière fois que Rouark s'était intéressé à eux, il manquait de carreaux. Et l'étrange chariot cracheur de vapeur qui participait à la distribution des munitions gisait sur le côté, carcasse encore fumante. Les Aes Sedai et les Achamans continuaient à canaliser, mais plus avec la même énergie qu'au début. Les Aiel, eux, se concentraient sur ce qu'ils faisaient le mieux, à savoir tuer. Tant que ces forces défendraient le chemin qui menait à la brèche, Randaltor aurait une chance. Est-ce que ce serait suffisant? Percuté par quelque chose, Rouark tomba à genoux. Levant les yeux, il vit qu'une femme magnifique approchait afin de l'étudier de près. Cet inconnu avait des yeux superbes, même s'ils n'étaient pas exactement en face l'un de l'autre. Jusque-là, il n'avait jamais mesuré à quel point les yeux des gens, bien alignés, avaient quelque chose d'horrible. Y penser suffit à lui donner la nausée. Toutes les autres femmes, se dit-il, avaient beaucoup trop de cheveux sur la tête. Celle-là, presque chauve, était beaucoup plus belle. Elle approchait, splendide, étonnante et incroyable. Quand elle toucha le menton de Rouark, le bout de ses doigts lui parut aussi doux que les nuages.
« Oui, tu es gentil, » dit-elle. « Viens, mon toutou, joins-toi aux autres. »
La femme désigna les gens qui la suivaient. Plusieurs matriarches, deux Aes Sedai et un homme armé d'une lance. Rouark grogna de rage. Ce type voulait-il lui voler l'affection de son adoré? S'il essayait, il le tuerait, et...
« Et Moridine qui croyait me punir en me donnant ce visage, »
fit la nouvelle maîtresse de Rouark.
« Mais toi, tu te moques des traits que j'arbore, pas vrai ?»
La voix de la sublime inconnue se fit plus douce et en même temps plus dure.
« Quand j'en aurai terminé, personne ne s'en souciera. Moridine lui-même vantera ma beauté, car il me verra avec les yeux que je lui aurai donnés. Comme toi, mon toutou, comme toi. »
Après que sa maîtresse lui eut caressé les cheveux, l'aïel rejoignit les autres. Avec eux et sa maîtresse, il s'enfonça dans la vallée, laissant derrière lui ceux qu'il appelait ses frères peu de temps auparavant. Rand avança quand une route apparut devant lui, composée des flux lumineux qu'il avait tissés. Foulant un sol pavé net et brillant, il passa de l'insignifiance à la majesté. La voie était assez large pour que 6 chariots y circulent de front, mais pour l'instant, on n'y voyait aucun véhicule. Seulement des gens en habits colorés qui parlaient, s'interpellaient et se saluaient, heureux de vivre. Des sons emplissaient le néant, les bruits de la vie. Rand tourna la tête pour voir les bâtiments qui poussaient comme des champignons autour de lui. De hautes maisons à la façade ornée de colonnes flanquaient la voie. Longues et élégantes, elles se pressaient les unes contre les autres. Au-delà, on distinguait des dômes et des structures qui semblaient tutoyer le ciel. Bien que le style architectural soit incontestablement celui des Augiers, cette cité ne ressemblait à aucune que Rand ait jamais vue. L'œuvre des Augiers, oui, mais en partie seulement. Devant Rand, les ouvriers réparaient une façade abîmée lors d'un orage. Au milieu des hommes, des Augiers aux doigts gros comme des saucisses riaient avec la discrétion d'une avalanche en montagne. Quand les Augiers étaient venus à Deux-Rivières afin de récompenser Rand pour son sacrifice, en érigeant un monument à sa mémoire, les responsables de Champdémonde, bien inspirés, leur avaient demandé de l'aide, histoire d'améliorer leur ville. Au fil des ans, les Augiers et les gens de Deux-Rivières avaient travaillé main dans la main. Du coup, les artisans du territoire, désormais, étaient cotés dans le monde entier. Rand remonta la route au milieu de gens de toutes les nationalités. Des Domani en tenue colorée très fine, des Théariens. Ces derniers temps, les différences entre les nobles et le peuple s'estompaient, avec leur ample tunique aux manches à rayures. Des Séanchaniens en costume de soie exotique. Des frontaliers à l'allure martiale. Dans le lot, Rand aperçut même quelques Chariens. Tous venaient à Champdémonde, une cité qui ne ressemblait plus beaucoup à son nom champêtre. Pourtant, de ce nom, il subsistait un héritage. Par exemple, bien plus d'arbres et d'espaces verts que dans d'autres grandes villes telles que Kemlin ou Théard. À Deux-Rivières, on vénérait les bâtisseurs. Et les tireurs d'élite du territoire restaient les meilleurs du monde. Armés de ces nouveaux bâtons de feu qu'on appelait à présent des fusils, une compagnie de gars de Champdémonde et des autres villes aidait les aïeuls à pacifier Chara, le dernier endroit où il y avait encore la guerre. Bien sûr, des querelles, on en trouvait encore de ci, de là. 5 ans plus tôt, celle entre le Mourandi et Théard avait failli provoquer le premier véritable conflit après l'ultime bataille. Rand sourit alors qu'il se frayait un chemin dans la foule, sans jouer des coudes, mais en savourant la joie qu'il entendait dans la voix des gens. La querelle au Mourandi avait été chaude, selon les critères du quatrième âge, mais en réalité, ce n'était pas grand-chose. Un unique noble mécontent avait ouvert le feu sur une patrouille d'Aiel. 3 blessés, aucun mort. Le pire bilan depuis des années, si on exceptait la campagne de Chara. Perçant la fine couche nuageuse, le soleil inondait de lumière la grande voie. Rand atteignit enfin l'esplanade qui était jadis la place centrale de Champdémonde. Que penser de la route de la carrière, à présent qu'elle était assez large pour qu'une armée y défile? Au centre de l'esplanade, Rand contourna l'imposante fontaine érigée par les Augiers, un hommage aux victimes de l'ultime bataille. Voyant des visages familiers parmi les statues de la fontaine, Rand se détourna. « Ce n'est pas encore ça, » pensa-t-il. « Rien n'est fini, et ce que je vois n'est pas réel. » Cette virtualité, il l'avait tissée avec des fils potentiels. Une image inversée de ce qu'était actuellement le monde. Mais rien n'était noué. Pour la première fois depuis qu'il évoluait dans sa vision de l'avenir, Rand sentit sa confiance vaciller. L'ultime bataille, il le savait, ne tournait pas au désastre. Mais des gens mouraient. N'avait-il pas l'ambition de mettre un terme à la souffrance et à la mort? Ce doit être mon combat. Personne d'autre ne devrait y perdre la vie. Son sacrifice ne suffirait-il pas? Une question qu'il se répétait à l'infini. Sa vision faiblit. Sous ses pieds, le sol trembla et les bâtiments vacillèrent sur leurs fondations. Tous les gens s'immobilisèrent et se turent. D'une rue latérale, Rand vit sourdre une masse noire qui grossit et absorba tout ce qui se trouvait autour d'elle. Très vite, elle eut la taille d'un bâtiment. « Ton rêve est miteux, adversaire !» Rand affermit sa volonté et les tremblements cessèrent. La foule reprit son chemin et recommença à parler et à rire. Le vent se leva, faisant onduler les étendards accrochés à des mâts pour honorer les vainqueurs du ténébreux.
« Je ferai en sorte que ça arrive !» dit Rand à son ennemi. « Ce sera ton échec ! Le bonheur, la fertilité, l'amour !»«
Ces gens m'appartiennent désormais. Je les reprendrai !»«
Tu es l'obscurité !» dit Rand d'une voix très ferme. « L'obscurité est incapable de repousser la lumière. En réalité, elle existe seulement quand la lumière échoue ou se détourne de l'humanité. Je n'échouerai pas et je ne me détournerai pas non plus. »
« Nous verrons bien. »
Rand tourna le dos au néant et continua à contourner la fontaine. De l'autre côté de l'esplanade, une volée de marches majestueuses menait à un très haut bâtiment de 4 niveaux. Une merveille d'architecture, avec des reliefs sur toute la façade et un toit en cuivre brillant hérissé d'étendards. 100 ans de vie et 100 ans de paix. La femme qui attendait au sommet des marches sembla familière à Rand. On ne pouvait pas passer à côté de traits caractéristiques du Saldaea, mais ses cheveux noirs bouclés la reliaient sans conteste à Deux-Rivières. Dame Adora, petite fille de Périne et bourgmestre de Champdémonde. Tandis qu'il récitait son discours commémoratif, Rand gravit les marches. Personne ne le remarqua, car il avait pris les mesures requises pour qu'il en soit ainsi. Tel un homme gris, il se glissa derrière Adora, alors qu'elle annonça l'ouverture des célébrations. Sans se retourner, Rand entra dans le bâtiment. Ce n'était pas le siège du gouvernement ou d'une administration, même si ça en avait l'air. En réalité, c'était un lieu bien plus important que ça. Une école. Sur la droite, les murs du long couloir étaient ornés de tableaux et de tapisseries dignes de n'importe quel palais. Mais ici, pas de scène de guerre. Bien au contraire, une galerie de portraits des grands professeurs et des conteurs de génie, d'Anla à Tom Merilin. Rand remonta ce couloir, jetant un coup d'œil dans les salles où n'importe qui, du plus humble paysan aux enfants de la bourgmestre, pouvait venir acquérir des connaissances ou approfondir les siennes. Pour accueillir tous les gens avides d'apprendre, il avait fallu prévoir un très grand bâtiment.
« Ton paradis prend l'eau, adversaire !»
Sur sa droite, Rand vit un miroir qui ne reflétait rien, sinon un vide noir. Le ténébreux était là.
« Tu penses pouvoir éliminer la souffrance ? Même si tu gagnes, tu ne réussiras pas. Dans ces rues parfaites, des hommes sont toujours tués dès qu'il fait nuit. Et malgré les efforts de tes partisans, des enfants meurent encore de faim. Les riches exploitent et corrompent comme ils l'ont toujours fait. Mais ils agissent en douce et nul ne les inquiète. »
« Tout s'améliore, » souffla Rand. « C'est bien. »«
Ce n'est pas suffisant, et ça ne le sera jamais. Ton rêve est minable. Ton rêve est mensonger. Je suis le seul être honnête que ton monde ait jamais connu. »
Le ténébreux attaqua. L'assaut prit la forme d'une tempête si violente qu'elle semblait en mesure d'arracher de ses os la peau de Rand. Les bras dans le dos, il se redressa, regard rivé sur le néant. L'attaque balaya la vision, la merveilleuse cité, les gens heureux, le monument à la gloire de la paix et du savoir. Le ténébreux consuma le rêve de Rand, qui redevint une possibilité parmi tant d'autres. Unie au pouvoir, Sylvana le sentait déferler en elle et illuminer le monde. Quand elle maniait le Saïdar, elle aurait juré être capable de tout voir, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Un sentiment enivrant, à condition de garder à l'esprit que ce n'était que ça, un sentiment. Un sentiment, oui, et pas la réalité. Bien des femmes, abusées par la puissance du Saïdar, avaient fini par commettre des actes insensés. Parmi les sœurs bleues, il y avait une myriade d'exemples. Perchée sur sa monture, Sylvana tissa du feu pour massacrer les soldats de Shara. Son ongre, elle avait entraîné pour qu'il n'ait jamais peur du pouvoir, quoi qu'il arrive.
« Archer, reculez !»
cria Tchoubane dans le dos de Sylvana.
« Vite ! Infanterie lourde, avancez !»
Les fantassins en armure passèrent devant la sœur, haches et masses d'armes levées afin d'affronter les chariens désorientés sur le versant. Des piques auraient été plus efficaces, mais on n'en avait pas assez pour tous les hommes. Sylvana propulsa une dernière lance de flamme sur l'ennemi, histoire de dégager le chemin pour les fantassins, puis elle se concentra sur les archers de Shara, postés plus haut sur le versant. Une fois le marécage contourné, les forces des Gwen s'étaient divisées en deux unités d'assaut. Les Aes Sedai s'étaient jointes à l'infanterie de la tour pour attaquer les chariens à partir de l'ouest. Depuis, les feux avaient été éteints, et la plupart des Trollocs avaient quitté le sommet du plateau pour se battre à son pied. L'autre moitié de l'armée des Gwen, des cavaliers pour l'essentiel, avait été envoyée dans le corridor, en direction du guet, afin de harceler l'arrière-garde vulnérable des Trollocs descendus du plateau pour fondre sur les défenseurs. La mission du premier groupe était de gravir le versant occidental. Voyant des chariens avancer pour repousser ces braves, Sylvana les bombarda de feu.
« Dès que l'infanterie se sera frayée un chemin sur le versant, »
dit Tchoubane,
« les Aes Sedai commenceront à... Mère, tu m'écoutes ?»
Alarmée, Sylvana se retourna pour regarder Egwen. La chair d'Amyrline ne canalisait pas le pouvoir. Très pâle, elle tremblait de tous ses membres. Des tissages braqués sur elle? Aucun que Sylvana pût voir, en tout cas. En haut du versant, des silhouettes apparurent, puis forcèrent les fantassins chariens à s'écarter. Ces hommes et ces femmes capables de canaliser frappèrent, et dans un vacarme et une lumière de fin du monde, les éclairs s'abattirent sur les soldats de la tour. Sylvana porta sa monture à hauteur de celle des Gwen.
« Mère !»
Des Mandred en personne devaient attaquer la jeune dirigeante. Une main posée sur le Saangreal des Gwen pour puiser plus de pouvoir, la gardienne des chroniques ouvrit un portail. La Seanchanienne, placée derrière la chaire d'Amirline, saisit les rênes de sa monture et l'entraîna en sécurité avec sa cavalière. Avant de suivre le mouvement, Sylvana cria.
« Résistez à Seayad et prévenez les Achamans que demanderait d'attaquer notre mère !»«
Non !»
souffla Egwene. Alors que les chevaux entraient sous une grande tente, la jeune dirigeante oscillait sur sa selle. Sylvana aurait aimé la faire voyager beaucoup plus loin, mais pour ça, elle ne connaissait pas assez la région.
« Mère !»
demanda-t-elle, alors que le portail se refermait.
« Qu'est-ce qui ne va pas ?»«
Gawain, il est blessé. Salement. Sylvana, il agonise. »
Sylvana serra les poings. Ces maudits champions. Elle redoutait un drame dans ce genre depuis qu'elle avait posé les yeux sur ce jeune crétin.
« Où est-il, mère ?»«
Sur le plateau. Je vais aller le chercher. Avec des portails, ça devrait pouvoir se faire. »«
Mère, tu mesures à quel point c'est dangereux. Reste ici et dirige la tour blanche. Je vais y aller. »«
Tu ne pourras pas le sentir.
Transmets-moi son lien. »
Et Gwen se pétrifia.
« Tu sais que c'est la seule solution, »
dit Sylvana.
« S'il meurt, ça risque de te détruire. Confie-moi son lien. Ainsi, je le trouverai. Et s'il périt, tu ne risqueras rien. »
Et Gwen regarda sa gardienne comme si elle venait de jurer fidélité aux ténébreux. Mais elle n'aurait peut-être pas dû lui parler de ses tourments. Une sœur rouge ne connaissait pas grand-chose aux champions, et les Aes Sedai de tous les Aja pensaient souvent n'importe quoi à leur sujet.
« Non, c'est hors de question, »
dit Gwen.
En plus, s'il meurt, c'est toi qui encaisseras toute la souffrance.
Oui, mais je ne suis pas à la chair d'Amirline.
C'est non, te dis-je. S'il meurt, je survivrai, et je continuerai le combat. Le rejoindre via un portail serait de la folie, comme tu l'as mentionné, et je ne te laisserai pas faire ça. Il est sur le plateau de Polov. Nous grimperons là-haut selon le plan, et nous le retrouverons. C'est la meilleure solution.
Sylvana hésita, puis elle hocha la tête. C'était acceptable. Ensemble, les deux femmes retournèrent du côté occidental du plateau. Quoi qu'il en soit, Sylvana écumait de rage. Crétin de bonhomme. S'il mourait, Egwene aurait beaucoup de mal à continuer le combat. Pour neutraliser la chair d'Amirline, les ténèbres n'auraient pas besoin de la battre. Il leur suffirait de tuer un jeune idiot.
« Que font ces chariens ?»
demanda Elaine. Birgit tira sur les rênes de sa monture et prit la longue vue que la reine lui tendait. Puis elle étudia le versant du plateau où un nombre important de chariens s'était massé.
Selon moi, ils attendent que les Trollocs aient été criblés de flèches. Tu ne sembles pas très sûr de ton analyse.
Elaine reprit la longue vue. Bien qu'unie à la source, elle ne canalisait pas le Saïdar. Depuis 2 heures, son armée se battait près de la rivière. Des Trollocs arrivaient de partout, mais ses troupes résistaient, leur interdisant de fouler le sol du Chiennard. Grâce au marécage, l'ennemi n'avait aucun moyen de contourner le flanc gauche d'Elaine. Le droit, en revanche, était vulnérable et devrait être surveillé. La situation aurait été encore pire si tous les Trollocs avaient été en position de traverser la rivière. Par bonheur, la cavalerie des Gwen les avait pris à revers, allégeant la pression sur l'armée d'Andorre. Les piquiers repoussant les monstres, le filet d'eau qui coulait encore dans le lit à sécher avait tourné au rouge presque noir. Sur sa monture, Elaine ne ratait rien des combats et faisait en sorte que ses hommes la voient. Pour contenir difficilement les Trollocs, les meilleurs guerriers d'Andorre versaient leur sang et mouraient. Au sommet, les chariens semblaient prêts à lancer une charge. Mais Elaine doutait qu'ils déclencheraient une attaque dans l'immédiat. Parce que l'assaut de la Tour Blanche sur le versant occidental devait les inquiéter. En chargeant l'armée des Gwen de frapper par derrière, Matt avait eu une idée de génie.
« C'est vrai, »
admit Birgit.
« Je ne suis pas très sûr de moi, sur presque tous les sujets ces derniers temps. »
Elaine plissa le front. Pour elle, la conversation était close. Que disait donc sa championne ?
« Où en sont tes souvenirs ?»«
Le premier... » C'est quand je me suis réveillé devant Nineveh et toi,
répondit Birgit.
Je me souviens de nos conversations au sujet du monde des rêves, mais je ne me rappelle plus l'endroit en lui-même. Tout a coulé hors de moi, comme de l'eau entre mes doigts.
Birgit, je...
L'archère haussa les épaules.
Ce qu'on a oublié ne peut pas nous manquer.
Le ton douloureux démentait les propos optimistes.
Gaïdal ?
Birgit secoua la tête.
Plus rien. Je sens que je suis censé connaître un homme par ce nom, mais rien ne vient.
Cette fois, l'archère ricana.
Comme je l'ai dit, j'ignore ce que j'ai perdu, donc tout va très bien.
Es-tu en train de me mentir ?
Par les maudites cendres, bien sûr que oui ! C'est comme s'il y avait un trou en moi, Elaine. Un gouffre même. Et ma vie, comme mes souvenirs, y sombre un peu plus chaque jour.
La championne détourna le regard.
Birgit, je suis désolé.
L'archère fit volter son cheval et s'éloigna. À l'évidence, elle refusait d'approfondir le sujet. Via le lien, son chagrin plantait des aiguilles dans l'esprit d'Elaine. Quel effet ça faisait de perdre tant de choses? Birgit n'avait plus d'enfance, ni aucun souvenir de ses parents. Sa vie entière, désormais, se réduisait à une petite année. Elaine fut tentée de la suivre, mais du coin de l'œil, elle vit que ses gardes du corps s'écartaient pour laisser passer Galad, superbe dans sa tenue de seigneur général des Fils de la Lumière.
« Galad ?»
fit la reine, les lèvres pincées.
« Ma sœur, il serait inutile, j'imagine, de souligner à quel point est incongrue la présence sur un champ de bataille d'une femme dans ton état.
Si nous perdons, Galad, mes bébés naîtront sous le règne du ténébreux. S'ils ont la chance de naître, je crois que se battre vaut le coup.
Tant que tu ne prétends pas ferrailler toi-même,
marmonna Galad. Une main en visière, il inspecta le champ de bataille. Ses propos, comprit Elaine, impliquaient qu'il lui donnait la permission, de commander ses troupes. Des éclairs jaillirent du sommet du plateau et vinrent s'abattre sur les derniers dragons en état de tirer, déployés à l'arrière des lignes d'Elaine. Quelle puissance! Les pouvoirs de Demandred éclipsaient ceux de Rand.
S'il les tourne contre mes hommes...
Pourquoi Cotton m'a-t-il envoyé ici?
Souffla Galad.
Il voulait une dizaine de mes meilleurs hommes.
Ne me demande pas de sonder l'esprit tordu de Matrim Cotton!
S'écria Elaine.
Je suis convaincu qu'il fait mine d'agir sans logique apparente, pour que les gens ne laissent n'en faire qu'à sa tête.
Galad approuva du chef. Pas très loin de là, Elaine remarqua un groupe de fils. Ils observaient les trolloques qui remontaient lentement le lit de la rivière, côté Arafel. Elaine comprit que son flanc droit était en grand danger.
« Envoie 6 compagnies d'arbalétriers !»
lança-t-elle à Birgit, qui était restée assez près d'elle.
« Il faut que Gibbon renforce nos troupes, en amont de la rivière !»« Lumière, voilà que ça tourne vraiment mal !»
Les forces de la Tour Blanche étaient sur le versant occidental du plateau, là où les tissages ennemis faisaient rage. Elaine ne voyait presque rien, mais elle sentait. Au-dessus du plateau, de la fumée tourbillonnait, éclairée par la lueur aveuglante de la foudre. Comme si une bête affamée et ivre de sang se réveillait dans l'obscurité, ses yeux brillant dès qu'elle les ouvrait. Elaine prit soudain conscience de l'odeur de chair brûlée qui planait dans l'air. Entendant les cris de douleur des hommes, elle capta aussi le vacarme du tonnerre et sentit que la terre tremblait sous les jambes de son cheval. Un air glacial faisait comme un linceul à une terre où rien ne pousserait plus jamais. Les armes brisées, le choc des piques contre les boucliers, la faim. Elle était venue, et la jeune reine se tenait au bord d'un précipice. Un messager déboula au galop, brandissant une enveloppe. Dès qu'il eut donné le mot de passe aux gardes, il sauta de selle et put aller rejoindre la souveraine et son frère, auquel il tendit la missive.
« Du seigneur Cotton, messire. Il a dit que vous seriez ici. »
Galad prit la lettre et l'ouvrit, le front plissé. Puis il lut le texte. Véritable exploit en matière de patience, Elaine attendit 3 secondes. Puis elle fit avancer son cheval et se tordit le cou pour lire par-dessus l'épaule de son frère. Franchement, il aurait pu se soucier davantage du confort d'une femme enceinte. La lettre était de la main de Matt. Non sans amusement, Elaine nota que l'écriture était plus affirmée et l'orthographe bien plus juste que dans la note qu'il lui avait adressée une semaine plus tôt. Apparemment, dans le feu de l'action, il devenait un meilleur scribe.
Galad, je manque de temps pour les déclarations fleuries. Tu es le seul à qui je peux confier cette mission. Tu fais toujours ce qui est bien, même quand personne ne te le demande. Les frontaliers n'auraient pas les tripes pour ça, je le crains. Mais je pense pouvoir me fier à un fichu fils de la lumière. Prends ce qu'il y a dans l'enveloppe. Fais-toi ouvrir un portail par une sœur de Lane et fais ce qui doit être fait. Matt.
Perplexe, Galad retourna l'enveloppe et en fit tomber un objet en argent. un médaillon au bout d'une chaîne. Un marc de Tarvalon avait été glissé à côté. Elaine posa les doigts sur le médaillon et voulut canaliser le pouvoir. En vain. Donc, c'était une des copies qu'elle avait faites puis données à Matt, Mellar en ayant volé une.
Cette tête de renard protège son porteur du pouvoir. Mais pourquoi te l'avoir envoyée à toi ?
Galad retourna la missive et découvrit un ajout rédigé d'une main plus nerveuse.
PS, au cas où tu n'aurais pas compris, fais ce qui doit être fait signifie massacre autant d'Ayad que tu pourras. Je te parie un marc de Tarvalon, un peu usé sur le pourtour, que tu en abattras 20. MC.
C'est fichtrement perfide,
souffla Elaine.
Par le fichu sang et les maudites cendres.
Quel langage inconvenant pour une reine,
fit Galad. Pliant la missive, il la glissa dans sa poche. Puis, après une brève hésitation, il passa le pendentif autour de son cou.
Je me demande s'il sait ce qu'il fait en remettant à un fils de la lumière un artefact qui l'immunise contre le pouvoir. Cela dit, l'ordre est excellent. Je vais le mettre en application.
Tu peux le faire ? Tuer des femmes, je veux dire.
Il fut un temps où j'aurais hésité, admit Galad. Mais il est révolu. Les femmes peuvent être aussi démoniaques que les hommes. Pourquoi abattre les uns et pas les autres ? La lumière ne juge pas les êtres en se fondant sur leur sexe, mais sur leur mérite.
Intéressant.
Quoi donc ?
Tu viens de dire quelque chose qui ne me donne pas envie de t'étrangler. Galad d'Amodred, il y a peut-être de l'espoir pour toi.
Le jeune homme se rembrunit.
Ce n'est ni l'heure ni le lieu pour plaisanter, Elaine. Tu devrais t'occuper de Gareth Bryne. Il semble très agité.
Elaine tourna la tête et fut surprise de voir le vieux général en grande conversation avec les gardes.
Général ?
L'appela-t-elle. Bryne tourna la tête puis s'inclina sur sa selle.
Mes protectrices t'ont barré le chemin ?
Demanda Elaine quand il l'eut rejointe. Avait-elle eu vent de la coercition ?
Non, Majesté,
répondit Bryne. Son cheval haletait, il avait dû le pousser rudement.
Je ne voulais pas te déranger.
Tu as un problème,
fit Elaine.
Je t'écoute.
As-tu vu ton frère dans le coin ?
Gawain ?
Demanda la reine en regardant Galad.
Non, aucune nouvelle.
Même chose pour moi,
fit Galad.
La chair d'Amirlin croit dur comme fer qu'il est avec vous. Pour se battre en première ligne. Peut-être s'est-il déguisé.
Pourquoi aurait-il...
Parce que Gawain était Gawain. Oui, il devait brûler d'envie de se battre, mais venir déguisé ne lui ressemblait pas. Réunir quelques hommes et lancer une charge, pourquoi pas, mais agir en douce. Lui, c'était difficile à imaginer.
Je ferai passer le mot,
dit Elaine, pendant que Galad, après l'avoir salué, se retirait pour aller accomplir sa mission.
Un de mes officiers supérieurs l'a peut-être vu.